RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal avec vous Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. 4 plus 4, ils seront finalement 8 candidats pour l'élection présidentielle prévue au Gabon dans 3 semaines. Hier, la Cour constitutionnelle à Libreville a finalement validé 4 dossiers initialement rejetés par le ministère de l'Intérieur. Recalé une deuxième fois, le syndicaliste Jean-Rémy Yama, lui, ne pourra pas prendre part au scrutin. Il dit ce matin sa colère, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal, également la société civile de Walikale dans l'est de la RDC qui décrit une situation humanitaire catastrophique après que les rebelles M23 se sont emparés cette semaine de la localité de Walikale centre. L'Algérie et plus largement les pays du Maghreb qui se lancent dans la désalinisation de l'eau de mer. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec du football. 11 matchs au total hier pour le compte des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Et de la boxe, alors que l'on a appris cette nuit le décès du boxeur américain George Foreman. Il n'y a plus de recours possible au Gabon. La liste des candidats pour le premier tour de l'élection présidentielle dans 3 semaines est définitive, validée hier par la Cour constitutionnelle. Cour qui a rajouté 4 candidatures aux 4 premières déjà autorisées par le ministère de l'Intérieur. Parmi les recalés, il y a notamment le syndicaliste Jean-Rémy Yama, invalidé une première fois pour défaut de présentation d'acte de naissance d'un de ses parents. Il avait bon espoir que sa candidature soit finalement retenue après avoir retrouvé l'acte de naissance de sa mère. Peine perdue, ce qui explique ce matin sa colère.
C'est un jour triste pour la démocratie. En même temps, c'est un acte de lâcheté, de pure lâcheté. Parce qu'il n'y a rien qui peut justifier le rejet de ma candidature. Puisque dans mon recours, j'ai produit l'acte de naissance. Et la Cour n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'ils l'ont ignoré. Alors qu'il y a des candidats qui ont fait des recours, à qui il manquait également des éléments, qui ont produit ces éléments et qui ont été acceptés. Alors donc, c'est une tristesse et en même temps, un acte de barbarie qui ne se justifie pas. Il y a une volonté manifeste d'écarter ma candidature. Alors pourquoi ils ont peur de moi? La loi, c'est la loi quand elle s'applique équitablement. Là, la loi n'a pas été correctement appliquée. Et ça, je le dis, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a deux poids, deux mesures. Et
qu'est-ce que vous allez faire par la suite?
Nous demandons tout simplement à nos militants d'être attentifs au mot d'ordre que nous donnerons.
Le syndicaliste et opposant gabonais et Jean-Rémy Yama. Au micro de notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. Au Soudan, le président veut que les FSR du général Emeti, les paramilitaires, rendent les armes avant toute négociation. Déclaration hier du général Al-Burhan donc. Alors que ses soldats ont réussi à reprendre dans la matinée le contrôle du palais présidentiel à Khartoum et que globalement, l'armée nationale soudanaise est depuis plusieurs semaines à l'offensive et elle a la main haute en ce moment face aux paramilitaires de l'ex numéro 2 de la transition soudanaise. Précision et explication avec Paul Lorgerie.
Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des hommes en treillis accompagnés de jeunes volontaires coiffés de bandeaux qui paradent dans l'enceinte d'un palais présidentiel en ruine. Après d'âpres combats, la reprise du lieu du pouvoir soudanais est, je cite, un coup dur pour les forces de soutien rapide du général Emeti, selon Alan Boswell de l'International Crisis Group, qui précise que cela marque un tournant majeur dans la guerre au Soudan. Les hommes du général Emeti ne comptent pour autant pas en rester là. Dans un communiqué, les FSR font savoir que la bataille pour le palais présidentiel n'est pas terminé. Et si leur empreinte à Khartoum se réduit, Roland Marshall, chercheur à Sciences Po, présage qu'un redéploiement pourrait s'opérer.
Une bonne partie des hommes et peut-être un peu de matériel va réussir à quitter Khartoum et se replier vers l'ouest du pays et que là-bas, le nombre de combattants des forces de soutien rapide sont beaucoup plus importants et peuvent permettre des combats acharnés et peut-être une contre-offensive.
En position de force, le général Al-Burhan a déclaré hier soir qu'aucune négociation n'aurait lieu avec les FSR, car les regards sont également tournés vers El Fasher, capitale du Darfour du Nord, qui résiste tant bien que mal aux assauts répétés des paramilitaires depuis le début de la guerre. Selon Roland Marshall, les FSR pourraient y concentrer leurs efforts. Une conquête qui, je cite, « de donnerait une cohérence politique et territoriale à l'existence d'un gouvernement parallèle.
Paul Lorgerie, autre conflit en cours en ce moment, celui dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles M23 soutenus par le Rwanda continuent de grappiller du territoire. Après avoir conquis au début de l'année les capitales provinciales du nord et du sud Kivu, Goma et Bukavu, ils progressent en ce moment sur la route qui mène à Kisangani, la province de la Tchopo. Depuis le milieu de la semaine, ils ont pris le contrôle de la localité de Walikale-Centre, au milieu d'une importante zone minière. Hier, l'armée congolaise a répliqué en procédant à des bombardements. En attendant, ceux des habitants qui ne sont pas partis restent enfermés chez eux. Et écoutez Fiston Missona, le porte-parole de la coordination de la société civile Force Vive du territoire de Walikale. Il décrit une situation humanitaire catastrophique.
Les organisations humanitaires qui tentaient justement de décompter le nombre de morts, l'M23 a interdit formellement que ces organisations humanitaires ne puissent pas faire cela, et surtout du côté de l'aérodrome. On ne sait pas qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui cache derrière tout ce qu'ils sont en train de faire au chef-lieu du territoire de Walikale. Sur le plan humanitaire, il faut savoir qu'une seule organisation humanitaire internationale, c'est MSF Hollande qui a assisté toujours la population dans l'ensemble du territoire. Mais toutes les zones de santé là, elles sont dépourvues de médicaments. Et au moment où vous parlez, je ne sais pas où est-ce que l'MSF Hollande pourrait avoir justement des médicaments pour approvisionner là où ils sont en train d'intervenir. Et à ce niveau, donc, la population reste à l'air très sort. Au moment où nous vous parlons, d'abord, le territoire est enclavé et il n'y a pas de route. Et l'aérodrome qui était un projet pour la construction, qui malheureusement jusque-là ne s'est pas encore achevé, pour la question humanitaire, ça reste encore catastrophique.
Fiston Missona de la société civile de Walikale, joint dans l'est de la RDC par François Mazé. La République démocratique du Congo, où l'on apprend que l'homme d'affaires indien Harish Jagtani a été arrêté au début de la semaine. Depuis, il est aux mains du Conseil national de cyberdéfense. C'est une agence de sécurité qui relève de la présidence congolaise. Interrogé, d'après nos informations, sur des contrats publics passés du temps du président Joseph Kabila, même si on ne sait pas encore ce qui lui est reproché exactement à Kinshasa, Pascal Moulégua.
Harry Jagtani a été arrêté lundi en début de soirée au lendemain de son retour en RDC. Il a été placé en détention dans un lieu géré par le Conseil national de cyberdéfense, mais les auditions n'ont débuté que mercredi. D'après nos informations, les enquêteurs se penchent notamment sur les informations contenues dans l'enquête menée en 2020 par RFI qui retraçait les premiers pas d'Harry Jagtani dans les affaires, ses réseaux et sa fortune accumulée après l'obtention de plusieurs marchés publics controversés. Les auditions ont aussi porté, selon nos sources, sur des liens supposés avec la famille de l'ex-président Joseph Kabila. À l'époque, notre enquête avait révélé des relations d'affaires, même si Joseph Kabila avait démenti auprès des RFI à travers l'un de ses proches collaborateurs. Toujours d'après nos informations, l'homme d'affaires indien a aussi été interrogé sur des transactions financières suspectes. Toutes ces auditions se sont déroulées en l'absence de ses avocats, mais dans un communiqué, la défense estime que les droits fondamentaux de ce client ont été respectés et qu'il est même traité dignement. L'un des avocats, Raphaël Kibuka, ajoute que les auditions tournent autour des faits, je cite, dont la nature infractionnelle reste douteuse. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, le Niger, où un deuil de 3 jours débute ce matin. Le gouvernement de Niamey reconnaît que 44 civils au moins ont été tués hier vendredi lors d'une attaque menée par les hommes d'un groupe djihadiste dans la région des Trois Frontières. C'est dans le sud-ouest du pays. Le ministère de l'Intérieur nigérien met en cause le groupe État islamique. Dessaler l'eau de mer peut-il être une solution aux difficultés d'accès à l'eau potable? On en parle aujourd'hui, le 22 mars, journée mondiale de l'eau, alors que près d'un habitant sur deux à travers la planète est confronté à des pénuries d'eau, situation accentuée par le dérèglement climatique. Dessaler l'eau de mer, l'idée séduit en ce moment notamment les pays du Golfe ou encore l'Espagne. Et le Maghreb n'est pas en reste, Justine Fontaine, puisque l'Algérie vient d'inaugurer 4 usines en l'espace d'un mois.
Une 5e est même en phase d'essai et devrait entrer en service prochainement dans la région de Béjaïa. Investissement total, 400 milliards de dinars, c'est-à-dire 2,5 2,5 milliards d'euros environ. Des chantiers confiés principalement à des filiales de la Sonatrach, la gigantesque compagnie pétro-gazière publique. De quoi permettre de quasiment doubler la capacité de production d'eau dessalée du pays. Et le président algérien Abdelmajid Tebboune prévoit de lancer l'an prochain 5 ou 6 projets d'usines supplémentaires. Objectif, répondre à 60% des besoins du pays en eau potable à partir de 2030. Dans le monde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël ou encore l'Espagne font partie des leaders du dessalement d'eau. Au Maghreb, le Maroc, touché par une sécheresse historique, a pour sa part annoncé fin octobre qu'il va construire la plus grande usine de dessalement d'Afrique. C'est pourtant loin d'être une solution miracle. Même si des progrès ont été faits, le dessalement consomme beaucoup d'énergie, en écrasante majorité du pétrole et du gaz, ce qui contribue donc à aggraver le réchauffement climatique. Enfin, les usines rejettent de l'eau très salée, parfois chargée en produits chimiques, ce qui affecte la biodiversité marine.
Justine Fontaine. Et puis, les félicitations ont continué d'affluer hier pour Kirsty Coventry, la ministre des Sports du Zimbabwe, première femme et première africaine, élue avant-hier à la tête du CIO, le Comité International Olympique. Félicitations, par exemple, du président zimbabwéen, des dirigeants de la Fédération de football ou encore du Comité Olympique local. Et si certains au Zimbabwe pointent l'état de délabrement du secteur des sports dans le pays, ou par exemple l'équipe nationale de football ne peut plus jouer à domicile faute de stade aux normes. La nouvelle présidente du CIO s'est dite hier impatiente de pouvoir promouvoir le sport et les sportifs sur le continent africain.
L'Union africaine en particulier, ainsi que les chefs d'État des pays africains ces dernières années, ont accordé beaucoup plus d'importance au rôle que le sport peut jouer dans la construction de communautés, dans la réduction des coûts des soins de santé. Les athlètes sont des membres très importants de la société. Ils apportent l'inspiration, ils apportent l'espoir. Donc on va pouvoir prendre soin de nos athlètes, les soutenir, s'assurer qu'ils ont les bonnes infrastructures. Ce sont tous les messages et toutes les conversations que j'ai hâte d'avoir avec le continent africain sur la façon dont nous pouvons continuer à renforcer tous ces axes afin que nos athlètes puissent vivre, s'entraîner et réussir de chez eux.
Kirsty Coventry, la nouvelle présidente du Comité Olympique International. Elle sera l'invitée, notez-le, de Mondial Sport. Rendez-vous cet après-midi, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Et tout de suite, c'est RFI Matin qui continue. Et c'est avec Julien Coquel-Rohem.